terminer la partie tout à fait pratique, c'est-à-dire comment prendre des décisions. À nouveau, c'est une année qui est devant nous et c'est une année qui va se forger à coups de décisions. On va arriver à la fin 2007 dans l'état, dans un certain état qui, à 99%, va dépendre des décisions que l'on aura prises en 2007. Alors, évidemment, il y a des décisions qui ne sont pas si importantes que cela. J'hésite entre la baguette et le pain aux céréales, entre le croissant et le petit pain au chocolat. Il n'y a pas de quoi en faire une pendule. C'est sûr, ça n'a pas changé ma vie. Ça dépend, on risque de prendre. Mais quand même, il y a des décisions qui sont sur notre chemin et qui donnent une orientation à notre vie. Et les orientations nous amènent vers notre destinée. Je remarque que les gens ne ratent pas leur destinée parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité dans la vie. Je peux répéter ? Je ne parle pas que des chrétiens, même les inconvertis ne ratent pas leur destinée parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité de la saisir. Mais très souvent, ils passent à côté de leur destinée parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Dieu est un Dieu qui prend constamment des décisions. Il continue. Avant la fondation du monde, il a pris des décisions concernant notre vie. Mais il continue à en prendre parce que c'est un Dieu dans lequel nous avons le mouvement. Il continue constamment à en prendre. Et Dieu ne se trompe pas dans ses décisions. Donc nous, de la même manière, eh bien nous pouvons avancer dans la vie avec, je dirais, un minimum d'erreurs parce qu'il y a une marge d'erreur qu'il faut admettre à cause de notre humanité parce que quelquefois nous prenons des décisions trop rapides parce que tout simplement nous sommes fatigués. Mais en deçà de ces considérations humaines, on peut avoir de l'assurance face aux décisions que l'on prend pour les enfants, que l'on prend pour le métier, que l'on prend avec un conjoint. On doit pouvoir avoir de l'assurance. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre Bible dans Hébreux chapitre 11 et nous allons voir ce que Moïse a suivi comme schéma pour prendre des décisions qui ont affecté le peuple d'Israël en entier. Hébreux, chapitre 11. Alors, souvent, les chrétiens pensent que avoir la foi, c'est laisser Dieu décider à notre place. Pour pratiquement tout dans ta vie, Dieu ne décidera pas à ta place. Parce que Dieu veut que tu sois un être responsable. Aujourd'hui, on est dans une société où pratiquement on décide, quand les enfants sont à l'école, quelles études ils vont faire. Si vous décidez les études d'un enfant, vous décidez sa carrière. Ensuite, on décide dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. Et on décide pratiquement dans quel quartier tu vas habiter en fonction de ce que tu donnes comme montant de tes revenus. On décide quelles allocations tu vas avoir, c'est-à-dire on va décider de ton standing de vie. Mais nous, les chrétiens, nous vivons selon d'autres principes et nous devons savoir que nous devons décider. Le choix nous appartient. Dieu a dit une bonne fois pour toutes, je mets devant toi la mort et la vie et tu choisis. Tu ne laisses pas les autres définir ton style de vie. Tu ne laisses pas les autres définir le futur de tes enfants. Il dit, tu décides. Mais pour cela, il va falloir que tu acceptes de choisir, de trancher et d'agir. Ce qui fait que quand nous sommes ceux qui décidons, on ne peut pas accuser les gens. Si vous laissez les autres décider à votre place, vous allez pouvoir vous retourner contre eux en disant « Ouais, c'est ta faute, si ça n'a pas marché, c'est ta faute. » Mais quand vous êtes face à vos responsabilités, vous ne pouvez que vous retourner contre vous-même, même pas accuser le Seigneur. Bien, est-ce que vous avez trouvé Hébreux chapitre 11 ? Alors, je vous ai demandé d'être attentif, mais pas... Vous m'impressionnez, là. Pas triste, quand même, hein ? Vous êtes tellement sérieux, du coup. OK. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère, tout le monde dit éphémère, du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. Alors, ici, nous avons les différentes étapes qui ont amené Moïse à accomplir sa destinée. La première chose que l'on voit dans le verset 24, c'est qu'il est dit « Par la foi, Moïse devenu grand ». C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas question d'âge, il est question de maturité. Quand vous voulez prendre une décision, il va falloir accepter l'élément temps. Ça n'est pas parce que vous savez que vous devez faire quelque chose que c'est le moment de le faire. Très souvent, quand vous entendez Dieu vous montrer sa volonté, la deuxième question à poser, c'est « Quand, Seigneur ?» Moïse, par exemple, en a fait les frais quand il ne savait pas que l'élément temps était important. Eh bien, il savait qu'il était appelé à libérer le peuple hébreu, et il le savait dès sa plus jeune enfance parce qu'il a été élevé par sa mère, sous les soins de sa mère, dans le palais du Pharaon. Mais parce qu'il avait été élevé dans cette mentalité, un jour tu vas délivrer ton peuple, tu es appelé à faire quelque chose de grand, eh bien il s'est précipité, il a essayé de délivrer le peuple d'Israël avant l'heure, et ça lui a coûté 40 ans dans le désert. Le plan de Dieu a été retardé à cause de la faute de Moïse. Donc, quand vous savez que vous devez faire quelque chose, ne vous précipitez pas. Je vais vous lire. Le Proverbe 21, verset 5 dit « Celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. » Proverbe 19, 2, 3 « Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Ça ne veut pas dire qu'il pêche, mais péché veut dire manquer la cible. Celui qui va précipiter ses pas va manquer la cible et rater le but même de sa décision. Donc, quand vous avez une décision, et plus elle est importante, plus vous devez prendre le temps. Regardez avec moi dans le livre de Luc. Chapitre 14. Luc chapitre 14. Alors, ça n'est pas nécessaire de se trouver dans une mauvaise situation parce que nous n'avons pas pris le temps de laisser Dieu agir dans toute la situation. Quelquefois, eh bien, ça me fait penser à pendant que ma sœur et moi étions en train de chercher un appartement. C'était tellement frustrant parce qu'on habitait en attendant dans un meublé. C'était un studio qui était meublé. J'avais beaucoup de difficultés à étudier. Le studio n'était pas du tout dans un style où on était à l'aise. Il n'y avait rien qui correspondait à notre style. Il y avait du bruit. Et je vais vous dire que, surtout moi, quelquefois, qui suis assez capable de trancher et de dire « stop maintenant », ça a été tentant de prendre des appartements et de faire des compromis, de dire « j'en ai assez, le prochain appartement que je vais voir, je le prends et on n'en parle plus ». Ce que nous ne réalisions pas, c'est que pendant ce temps, il y avait le locataire de l'appartement où nous sommes maintenant qui était en train de faire ses valises. Et puis, le propriétaire, quelquefois, vous dit « mais pourquoi ça met du temps à traîner ?» Parce qu'il est en train d'hésiter entre vendre et louer à nouveau. Et pendant ce temps, plus on voyait d'appartements, plus on devenait exigeante sur ce que l'on voulait. Parce qu'on se dit, oh tiens, ça nous plaît, ça, on veut ça dans le prochain appartement. Si bien que notre foi était obligée d'augmenter au fur et à mesure, et ô combien je suis contente de ne pas avoir signé avec précipitation. Vous avez trouvé Luc, et on va voir à vrai dire dans Luc, deux éléments. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne part chez l'architecte afin qu'il élabore les plans rapidement, puis de là il court vers le banquier pour lui dire « j'ai besoin d'emprunter de l'argent et voici la garantie que je peux payer ». Verset 31, ou quel roi s'il part pour s'engager dans une guerre contre un roi, rassemble toutes ses armées et dit « à l'attaque, l'Éternel est avec nous, on gagne ». C'est ce qui est écrit ? Non. Il est dit « car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne, quel est le verbe ? S'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par des expériences de la foi, parce qu'ils ont signé des contrats par la foi sans d'abord s'asseoir en se disant « est-ce que vraiment je crois ? Est-ce que j'ai la foi nécessaire ?» Pour croire que Dieu me le donne ? Est-ce que j'ai la foi nécessaire pour obtenir cette somme-là ? Et qu'est-ce qu'il est parlé encore concernant le roi ? Regardez verset 31. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Certains chrétiens, ils savent qu'ils ont 20 000 personnes contre eux. Eux, ils en ont 10 000. Mais il dit, mais on s'en moque, l'Éternel est avec nous. Oui, seulement quand tu vas voir le nez des 20 000 personnes face, est-ce que tu auras toujours la foi que Dieu est avec toi? Quand tu vas compter 4 personnes avec toi, 4 de ton côté, 20 000 de l'autre côté. Alors, plutôt que de nous laisser emporter par les émotions, plutôt que de nous laisser emporter par l'opportunité, vous savez que quand on voit une opportunité qui correspond à un rêve, on a tendance à partir comme cet oiseau-là. Comment il s'appelle cet oiseau dans le dessin animé ? Hein ? Bip, 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 bip. Et certains chrétiens, ils sont exactement comme lui. Ils entendent une opportunité. Ils savent que Dieu est grand. Parce que Dieu peut tout. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Et parce qu'ils savent que Dieu est grand, bip, 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 bip. Ils n'ont pas fini leur phrase, il n'y a plus que un nuage de poussière. Parce qu'ils sont partis. Ils ont signé. Ils ont accepté. Ils ont tout quitté. Ils ont acheté. Et puis, au loin, 2-3 semaines après, on entend. La tour s'est écroulée. Ils avaient oublié les fondations. Et on voit ces chrétiens qui reviennent vers nous avec du sparadrap, un œil au beurre noir. Et normalement, d'ailleurs, on ne les revoit pas tout de suite parce que parce qu'il leur faut du temps pour se remettre. Et après, ils préfèrent que ça guérisse tout seul pour pas qu'on leur pose cette question. Mais dis-moi là, toi, la dernière fois que je t'avais vu là, t'avais l'air en bonne santé. Comment ça se fait que t'es le bras cassé là, hein? Comment ça se fait que t'as un peu l'air dépressif? Et le sparadrap que t'as sur le nez là, où tu te l'es pris, hein? Alors, ils n'ont pas toujours envie de raconter leur histoire. Donc, normalement, on ne les revoit pas, ce qui leur fait du tort. Parce qu'au lieu d'être encouragé, hein, eh ben, on va tous t'aider, on va te relever. Peut-être qu'on va rire ou on va pleurer ensemble, mais reviens. Peut-être que tu as quelque chose à apprendre. La Bible est surtout, plus la décision est importante, plus tu veux t'assurer que, hop là, tu ne vas pas t'asseoir à peine poser les fesses sur la chaise, mais tu vas prendre le temps de réfléchir, écoute-moi, honnêtement. Quelle est la seconde chose que Moïse a faite? Alors, gardez... Non, d'abord, je vais relire ici. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour rêver? Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord pour imaginer la victoire et un royaume beaucoup plus grand? Alors, c'est vrai que les rêves, il en faut. C'est absolument détestable, parce que dans notre pays, on tue les rêves. Dès qu'un enfant, vous savez, il, au lieu de faire ses devoirs, tout d'un coup, vous voyez l'enfant qui... Et il est parti. Et il est parti. Et le père ou la mère le voit, et au lieu de lui dire « Hey, qu'est-ce que tu vois? À quoi tu rêves? Fais tes devoirs! Arrête de rêver! Redescends sur terre !» Ça fait mal? Non. Rassure-les au moins. Et on tue le rêve chez les enfants. Et en France, un rêveur, c'est un bon à rien. Et c'est pour cela que les enfants grandissent et tout est impossible. Ils n'arrivent pas à se trouver. Après, ils veulent entamer une carrière, ils veulent se lancer dans un métier. Et il y a toutes ces choses. Non, c'est pas pour toi, arrête de rêver. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, il faut que nous sachions si nous sommes capables d'accomplir les rêves maintenant. Est-ce que j'ai tous les éléments? Il est dit, il s'assoit pour calculer la dépense. C'est-à-dire, il va prendre tous les faits, pas simplement la révélation de ce qu'il doit faire. Il va prendre tous les faits dans le naturel. Si vous retournez dans Hébreux chapitre 11... Non, vous ne voulez pas regarder? Vous devrez entendre les pages qui tournent. Hébreux chapitre 11. Je réécoutais un enseignement de Kenneth Copeland et à un moment, il a dit « Ouvrez votre Bible à... » Et pendant qu'il continuait à parler, il y avait toutes les Bibles de 1000 personnes qui étaient en train de tourner les pages et on aurait dit un bruit d'eau. Oh, c'était ravissant. Ah, c'est un bruit agréable, hein? Hébreux 11, regardez maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? C'est par la foi que devenu grand, donc Moïse a laissé cette fois-ci l'élément temps faire son travail. Écoute-moi, si tu peux te rappeler de cela, Joyce Meyer l'a dit. Elle a dit, quand tu es en Christ, le temps est un ami. Quand tu es en Christ, le temps est un ami. Si un verset dans les psaumes nous dit que si tu t'appuies sur l'Éternel, eh bien, tu ne feras pas les choses à la hâte. Si tu crois que l'Éternel maîtrise le temps, tu seras moins nerveux. Par la foi, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Verset 26, quel est le verbe que vous avez ? Il estimait, en effet, que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus au loin vers la récompense. Et ici, c'est exactement ce qu'il nous est dit de faire dans Luc chapitre 14, c'est que pour prendre une bonne décision, non seulement nous devons accepter que l'élément temps entre en considération, mais nous devons apprendre à estimer les choses. Marcher par la foi ne veut pas dire nier les choses dans le naturel. Et il nous est dit que Moïse a estimé, a pesé les faits. C'est-à-dire que d'un côté, il a considéré ce qu'il avait s'il restait en Égypte, et de l'autre, il a considéré ce qui se passerait s'il marchait par la foi et répondait à l'appel de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a vu ? D'un côté, il a vu qu'il était fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire le prochain à être sur le trône. Il a vu que tous les jours, il mangeait à sa faim, il restait des mets délicieux, il était servi à table, il ne faisait pas son lit, on le lui faisait. Il a vu qu'il roulait dans le dernier chariot à la mode. Il portait les vêtements les plus fins. Il a vu qu'il entendait la meilleure musique, pas sur un CD, orchestre privé. Il a vu aussi que quand il entrait quelque part, tout le monde faisait un pas en arrière pour le laisser passer et il marchait sur un tapis rouge. Il a vu qu'il avait une renommée qui est enviée par beaucoup. Son nom le précédait partout. Il a vu toutes ces choses. Il ne les a pas niées. Et ensuite, il a regardé ce qu'il gagnait à faire la volonté de Dieu. Il a vu qu'il allait conduire un peuple, d'abord en prenant la décision de se rebeller contre l'ordre de son père adoptif. Ensuite, il a réalisé qu'il allait être à la tête d'un peuple d'esclaves, qui n'avait aucune éducation. Ça n'est peut-être rien. Mais quand vous pensez que ce prince-là a mangé dans les assiettes les plus fines avec des gens qui savaient tenir leurs couteaux et leurs fourchettes, il s'est retrouvé avec des gens qui devaient manger à la main et qui en mettaient de partout. Il a vu que les gens, eh bien, allaient certainement l'isoler parce que les gens craignaient le fils du Pharaon et qu'il allait être testé. Il a vu qu'il allait perdre sa réputation et qu'au lieu d'être dans ces grandes villes d'Égypte, il allait passer par le désert au milieu des scorpions et des serpents. Et la Bible dit, il a vu la récompense. Tu sais, quelquefois, quand Dieu te demande de faire quelque chose, peut-être que sur le moment, ça va coûter. Mais si tu sais regarder la récompense, tu verras que la récompense va de loin dépasser tous les sacrifices que tu as faits. Mais il n'a pas nié le coût. Il est dit qu'il faut s'asseoir pour calculer la dépense. Et si tu veux bâtir quelque chose dans ta vie, il y a de grandes chances qu'il faudra dépenser quelque chose. Question, est-ce que tu es honnête avec toi-même ? Est-ce que tu es prêt avec cela ? De la même manière, quand un jeune homme veut se marier avec une jeune femme qui n'est pas convertie, qui n'est pas au Seigneur, calcule la dépense. Ne pense pas simplement à l'émotion du moment, calcule la dépense. Tu dis d'accord, il est comme cela, mais voilà où ça va m'amener. Et marcher par la foi, encore une fois, ça n'est pas faire fi de tous les éléments que nous avons dans le naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'appuie sur les éléments naturels, mais une fois qu'on a décidé et qu'on a tranché et qu'on a signé, il va falloir faire face avec les éléments naturels jusqu'à ce que notre foi matérialise le rêve ou la solution. Et quelquefois, les gens se lancent dans des décisions de la foi et ils se retrouvent tout d'un coup devant un élément qu'ils n'avaient pas prévu. Ils disent « Ah, mais ça change tout, ça !» Donc, Moïse, pour décider à laisser l'élément temps entrer en ligne de compte, il n'a pas eu peur également d'estimer, Moïse n'a pas deviné là où sa décision allait le conduire. Moïse n'a pas fait une vague déduction, non. Moïse a utilisé les faits qu'il avait. Ensuite, il est dit, après avoir estimé, il est dit, aimant mieux. Aimant mieux, c'est-à-dire, il a dit, maintenant, je vois ce que j'ai en Égypte. Je vois ce que j'ai à répondre à la volonté de Dieu ou alors, je vois ce que j'ai à m'engager dans cette direction-là. Et il a dit maintenant, je préfère. Il n'a pas dit, je préfère suivre Dieu parce que tout est rose. Il n'a pas dit, je préfère parce que c'est facile. Écoute-moi bien, si tu veux suivre la facilité, je te garantis, tu prendras des mauvaises décisions dans ta vie. Tu ne choisis pas la facilité. Choisis de suivre ton Dieu. Et suivre son Dieu, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, tu dis, mais on décide en fonction de quoi ? De toute façon, on décide en fonction du bien et du mal. Ben, une des choses que j'ai découvertes en préparant cette série, c'est que non, pas forcément. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. On ne décide pas forcément en fonction du bien et du mal, on décide en fonction de ce qui a le plus ou le moins de valeur pour nous. C'est-à-dire, nos décisions sont basées sur nos valeurs et pas forcément sur le bien et le mal. Vous dites, pasteur, tu peux t'expliquer ? Puisque vous me le demandez. Non, mais puisque vous insistez, hein. Je vous donne un exemple. Négatif, mais bon. Par exemple, un homme marié, ou une femme mariée, peu importe, hein, qui commet un adultère, d'après vous, est-ce qu'il prend sa décision basée sur un choix entre le bien et le mal ? Non, c'est mal. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela, même un chrétien ? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait cela ? Parce qu'il a pris sa décision en fonction de ses valeurs. Et la valeur plus, c'était mon ego. Moi, j'ai beaucoup de valeur et sur cette valeur, je vais décider. Et la valeur moindre, c'était la fidélité vis-à-vis de sa femme. Non, on ne choisit pas forcément entre le bien et le mal, mais on choisira toujours sur la base de nos valeurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important d'enseigner aux enfants les valeurs ? C'est terrible de ne pas enseigner les valeurs aux enfants. Maintenant, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans la vie ? La parole de Dieu. C'est ce qui a le plus de valeur. Donc, on voit que Moïse a suivi l'élément temps, on voit que Moïse a pris le temps de s'asseoir, d'estimer, et ensuite il a dit, ben j'aime mieux. J'aime mieux suivre mon Dieu plutôt que d'avoir le confort du monde pour un temps. Et on voit, le verset nous dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé un titre parmi les hommes pour avoir une position avec Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décider parce qu'ils n'arrivent pas à refuser. Pourquoi ils n'arrivent pas à refuser ? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de préférer. Jamais pris le temps. Dire, ok, qu'est-ce que j'ai devant moi ? J'ai l'option A et j'ai l'option B. Quand je suis devant l'option A, voilà ce qui s'offre à moi. Quand je suis devant intelligemment, je peux dire, je préfère l'option B. Ce qui veut dire, je refuse tout le reste. C'est pourquoi il y a tant de chrétiens qui se lancent dans une direction et tout d'un coup, ils sont vacillants, ils hésitent parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de dire « je préfère ». Ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir. Ils n'ont jamais pris le temps de considérer « ça marche au feeling, ça marche aux émotions » parce qu'on croit que les chrétiens sont des êtres qui ne sont qu'émotionnels. Écoutez bien, les émotions, et je suis en train de préparer, continue à préparer cette série sur les émotions. Les émotions ne sont pas là pour nous conduire. Un chrétien qui passe son temps à prendre des décisions sur ses émotions, c'est un chrétien qui va droit dans le mur. Les émotions nous ont été données par Dieu pour confirmer les décisions que nous avons prises, bonnes ou mauvaises, pas pour nous guider. Vous pouvez vous relaxer, ça m'aiderait là, vous m'intimidez. Je vous ennuie ? Je plaisante. Vous êtes tellement sérieux qu'attendez, relaxez, relaxez là. C'est important les décisions. 2007, il ne s'agit pas de se rater. Hein. Et on va réussir, mais ne soyons pas comme une autruche qui se cache la tête devant les réalités de la vie et devant les conséquences des décisions. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'accuser Dieu. Vous vous rappelez quand Dieu a dit, ben voilà, un exemple, Pharpé. Quand Dieu, vous avez lu Obélix et Astérix, non ? Ah ben voilà, sous le coup de l'alcool, Obélix, il n'arrivait plus à dire parfait, il disait Pharpé. Ah ben chacun ses lectures. Hein. Et Pierre, vous vous rappelez de notre ami Pierre, que s'est-il passé? Il a posé au Seigneur une question stupide qui fait que Jésus n'a pas pu répondre autre chose. Pierre a vu Jésus et il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Il a dit, il a donné un ordre au Seigneur. Il a dit, ordonne que je m'avance sur toi, vers toi sur les eaux. Ben, vu la manière dont il avait posé la question, il n'avait qu'à fermer sa bouche. Il a parlé, juste une petite phrase en trop. Et au lieu de dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et ça suffisait, la question était bonne. Il a dit, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Qu'est-ce que Jésus allait dire? Non, c'est pas moi, reste où tu es. Oh Pierre! Donc Jésus a dû répondre à sa question. C'est moi! Viens! Pierre, à fond dans les émotions, la soupe au lait que c'est! Paf! Il saute dans l'eau parce qu'il est enflammé par la révélation. Il est enflammé par la parole que Jésus vient de lui donner et il commence à marcher. Il trouve que c'est marrant! Parce que l'eau, elle reste, elle est aussi solide que du sol, et c'est marrant, youhou, et il est content sur l'eau, et tout d'un coup, il entend le vent, et il voit la hauteur des vagues, et il dit, c'est pas normal, c'est pas normal ça, qu'est-ce que je fais ici? Et il entend les autres, qui jusqu'à présent avait trouvé assez marrant de voir Pierre qui sautait sur l'eau. J'arrive, Seigneur. Et les autres, tout d'un coup, ont réalisé que Pierre réalisait. Et normalement, il n'y a plus personne qui vous encourage. Tout le monde se tait. Parce que tout le monde est en train de se demander ce qui va se passer. Et ils attendent que Pierre coule. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avant de se lancer, avant d'abord de poser une question aussi stupide que celle-là, il aurait dû prendre le temps de s'asseoir, se calmer, réfléchir. Bon, mais là, c'était spontané. Mais après avoir entendu, ben viens, il aurait dû regarder et dire, je vais où là maintenant? Mais il ne s'est pas posé la question, il est parti au feeling, il a démarré. Bip, 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 pchit, il est parti. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé face à la réalité. Et il a commencé à couler. Bon, dans la miséricorde, le Seigneur l'a repris. Hein. La Bible dit que Jésus attendait, regardez un peu le stupide de la situation. Il était tellement pris que la Bible nous dit que Jésus n'a eu qu'à tendre la main pour le relever. Pierre, tu ne pouvais pas réfléchir aux côtés de Jésus, tu aurais sauvé ta réputation. Quitte à couler, coule à côté de lui, mais arrive jusque lui. Bien, alors, de quoi on est en train de parler? De prendre des décisions. C'est-à-dire ne pas avoir peur de laisser l'élément temps. Également, prendre le temps de s'asseoir et d'estimer. Et puis ensuite, dire, voilà, j'aime mieux, je préfère. C'est-à-dire, quand je dis j'aime mieux, quand j'ai dit j'aime mieux répondre à l'appel de mon Dieu. Pour moi, par exemple, pour entrer dans le ministère, je n'ai pas eu de difficulté à refuser d'autres métiers, à refuser d'autres propositions. Quand Dieu m'a dit, viens ici, et que j'ai calculé ce que cela voulait dire pour moi de commencer une église sur la Côte d'Azur, je n'ai pas eu de difficulté à refuser d'être directrice d'une école biblique en Suisse. Je n'ai pas eu de difficulté à refuser un poste dans le centre de la France. Je n'ai pas eu de difficulté. Pourquoi? Parce que j'aimais mieux, j'avais pris le temps de considérer. Vous êtes avec moi ou vous voulez rentrer à la maison parce que vous avez faim? Et ensuite, eh bien, il nous est dit, verset 27, qu'il quitta. Alors, ça c'est, je vais vous donner une petite distinction parce que il quitta et ils traversèrent. C'est-à-dire que traversèrent, ça c'était l'accomplissement de leur rêve. Mais il quitta, cela veut dire qu'il est passé à l'action. Choisir n'est pas agir. Vous avez des chrétiens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne sont jamais passés à l'action. 4 ans plus tard, vous les entendiez toujours parler de leurs rêves. Vous les entendez toujours parler de ce qu'ils veulent faire, mais jamais ils ne sont passés à l'action. Ils sont restés en Égypte. Donc, une fois que tu as préféré, une fois que tu as dit « j'aime mieux », une fois que tu dis « maintenant c'est le temps d'agir et je sais ce que je fais », on y va. On y va. Ce qui veut dire, eh bien, tu dois aller au-delà de tes peurs, au-delà de peut-être tes peurs de l'échec, au-delà des peurs concernant ta réputation. Tu dois vaincre toutes ces choses, mais d'une manière ou d'une autre, tant que tu n'agis pas en fonction de ce que tu as choisi, tu n'arriveras pas à ta destinée. C'est-à-dire que tu laisseras le temps et les autres décider à ta place. Ne pas décider, c'est décider de ne rien faire. Alors, il y a des gens qui traînent dans des relations et qui traînent dans des relations. Moi, j'en ai connu. Ils ont mis 3 ans à se décider de se quitter. Mais je vais vous dire, ça a été de la folie. De la folie parce qu'au fur et à mesure, plus ils tardaient, plus il y avait la confusion et la confusion et la confusion. Et ça a été un déchirement. Ils savaient qu'ils étaient engagés dans une mauvaise relation. Ils disent, non, c'est pas ça. Mais ils n'ont pas décidé. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas décidé. Et ça a été difficile. Pourquoi vivre comme cela? Pourquoi perdre du temps? Pourquoi passer à côté du meilleur? Et il y a un autre élément qui nous est donné dans le verset. C'est il est dit, et il fit la Pâque. Et quelquefois, on s'étonne un petit peu des détails de la parole de Dieu. Mais il fit la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pendant qu'il était dans ce processus de décision, il n'a pas négligé le reste. Il a continué à faire ce qu'il savait devoir faire. Quelquefois, les gens se lancent dans un projet et ils oublient tout le reste. Ils oublient la famille, ils oublient leurs devoirs, ils oublient les enfants, ils oublient tout, ils partent. Il n'y a plus personne qui le suit. Et ces gens-là voient leurs rêves accomplis et ils sont seuls. Et ils sont seuls. Alors, tu as un rêve, tu veux l'accomplir, tu as des projets de la foi, mais pourquoi arriver seul dans ta destinée? Pourquoi ne pas arriver avec le succès? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, mais dans la gloire? Alors, je vais résumer les étapes. 1. Moïse, devenu grand, refusa. Pourquoi il a pu refuser? Parce qu'il a pris le temps de considérer les options qu'il avait et les conséquences. Et ensuite, honnêtement, face à son Dieu, il a dit, « Eh bien, je préfère. » Ayant préféré, il n'a pas eu de difficulté à refuser. Ensuite, il est passé à l'action et la Bible nous dit, il a quitté et il a traversé. Mais pendant tout ce temps, il a continué à faire ce qu'il savait devoir faire. Voilà. Alors, vous êtes équipés pour prendre de bonnes décisions en 2007. Tu dis, mais tu sais, pasteur, ça fait beaucoup d'étapes, ça. Hein? Encore une fois, pas pour acheter ton pain. Enfin, j'espère. Parce que certains, quand on voit comment ils hésitent pour acheter 3 paires de chaussures, on se dit, maman, mais il passe combien de temps pour décider quand il faut acheter une maison, alors? Ils font peur, ces gens-là. Des gens qui lisent le menu, ah ben, je cite, entre le steak et le saumon. Bah, demande à ton voisin, il va trancher pour toi. Tu vois pas que tu retardes tout le monde, là? Vous en connaissez des gens comme ça? Oh, ils me font peur. Parce que je dis, oh là là, le jour où ils achètent une maison, il y a quelqu'un qui va tourner bourrique avec eux. L'agent immobilier, entre autres. Ou le banquier, l'un des deux. Alors, et exerçons-nous à prendre des décisions dans des petites choses. Si vous êtes le style de personne à prendre des décisions trop rapides, ben normalement c'est pas une découverte parce qu'il y a tout un historique derrière vous. Bon, vous savez que vous devez travailler sur l'élément temps. Si vous êtes le style de personne à ne pas arriver à trancher, alors dans ces cas-là, mettez l'accent sur le fait d'estimer. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent jamais à trancher. C'est terrible. C'est terrible parce qu'ils vivent à la vitesse des escargots. Et à la fin, on s'ennuie avec eux. C'est pas pour dire, mais on s'ennuie parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et quand ils veulent bouger, l'opportunité leur est passée sous le nez. Alors, on peut être assez équilibré dans la vie, hein, et on peut vivre bien. Et moi, je crois qu'on va prendre de bonnes décisions pour 2007. Moi, en tout cas, je vais m'assurer que je prends de bonnes décisions pour 2007. Amen. D'accord. Alors, soyez bénis, passez une bonne journée dans le Seigneur. Et puis, n'oubliez pas, parlez à quelqu'un de Jésus cette semaine.